France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Comment devient-on Jules Verne ? Parce que l'on est mauvais élève ? Parce que l'on est amoureux de sa cousine ? Parce que l'on fugue ? Parce que l'on est humilié après l'échec de cette fugue ? Parce que, plus tard, on voit de ses propres yeux Monsieur de Lamartine haranguer les foules ? Parce que l'on connaît la recette de l'omelette à la mode de Nantes ? Réponse, grâce à Bernard Franck, invité de l'Université des Annales, et grâce à sa conférence, Jules Verne ou l'aventure immobile, conférence diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 25 avril 1955.
Nous vous invitons à écouter en nouvelle diffusion, dans le cadre des grandes conférences, une causerie donnée par Bernard Franck à l'Université des Annales. Jules Verne ou l'aventure immobile.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y avait sous Charles X, en 1827, à Nantes, un vieil avoué de la rive droite, maître Pactot, qui se retire des affaires et vend sa charge à un jeune licencié en droit, originaire de Provins, Seine-et-Marne. Il est sévère, il est fin de profil, très aristocrate de manière, mais silencieux, taciturne, toujours vêtu de l'éternelle redingote noire aux manchettes de dentelle, la cravate blanche des avoués du temps. Il n'a pas d'amis parce qu'il n'est pas d'ici. Ou plutôt, il a un ami qui est son curé. Ce brave homme de curé se penche sur l'âme de son poulain, s'éprend de ce jeune homme solitaire et mélancolique. Et un beau soir, il lui conseille d'aller lire ses livres sur un des bancs de pierre de la petite Hollande à l'air frais qui vient de la mer. Le jeune homme obéit à son curé. Il est 7 heures du soir, par un beau printemps, c'est-à-dire en mai 1827. Il lit un gros livre de droit. Il est tellement absorbé dans sa lecture qu'il ne voit pas trottant à pas menus dans le crépuscule qui tombe une ombre aux voiles de mousseline mauve. Une ombre qui trotte très vite parce qu'il est de très mauvais goût à cette époque pour une jeune fille du monde d'être dehors à 7 heures du soir. Passant près du pont, près du banc de bois, à l'ombre des ormes qui ont 100 ans. L'ombre, aux voiles de mousseline, trébuche sur un gros pavé. Laisse tomber son ombrelle. Le jeune homme aperçoit l'ombrelle, rougit très fort en l'attendant à l'ombre fugitive, laquelle rougit encore plus fort, reprend son ombrelle, mais d'émotion, laisse tomber son cœur. Si 15 mois plus tard, mesdames et messieurs, vous vous étiez promenés à l'ombre crépusculaire, au carrefour des rues Kervégan et Olivier de Tisson qui existent encore, le balcon existe toujours, vous auriez pu voir une nounou nantaise. Une nounou nantaise aux grands voiles de couleur, qui tendait à la Loire un petit garçon nouveau-né. Un petit garçon qui souriait de tous ses jeunes yeux, à la multitude des mâts, des vergues et des voiles, aux marins au teint basané, des singes gambadant sur leurs épaules, un petit garçon qui, par-delà l'estuaire, devinait la mer aux profondeurs couleur de violette, aux montagnes d'émeraude sous-marines, qui, de ses jeunes oreilles, devinait déjà les cris, aigus ou graves, d'une foule de petits garçons, qui plus tard s'appellerait le capitaine Nemo, le capitaine Grand, Phileas Fogg, Lord Grenarval, Michel Ardan, ce petit garçon dont la vie s'ouvrait devant l'aventure et qui semblait désigné pour l'aventure, ce petit garçon était Jules Verne. Un an après, Paul, et puis Anna, et puis Mathilde, et puis 50 vacances, et puis Marie, celle qu'il appellera le chou et qui, 77 ans plus tard, lui fermera les yeux. On met les deux petits garçons au petit séminaire Saint-Donatien. Et là, La multitude de bulletins de notes que j'ai pu avoir entre les mains m'ont convaincu de la perspicacité des professeurs. Pour Paul, 18 sur 20, 19 sur 20, 20 sur 20, futur officier dans la marine du roi, écrit un jour le supérieur. Pour Jules, 0. 1. Un jour, 2, grâce à la protection de M. Lomonnier. Un beau jour, Maître Verne de recevoir un bulletin qui ne contient que des 1 et des 0. Avec un paquet ficelé. Voici, maître, tout le travail de votre fils aîné pendant le trimestre écoulé. Il sort en tremblant du paquet un éléphant. Omnibus, à vapeur. Quand on souffle dans la trompe, la fumée sort par la queue. L'éléphant recule. Quand on souffle dans la queue, la fumée sort par la trompe. L'éléphant avance. La première locomotive vient à peine de tirer le premier train et Jules Verne a 10 ans. Alors que Paul, studieux, fait ses devoirs et s'amuse à des jeux très innocents avec sa cousine Marie qui est de son âge, Jules, débraillé, ne fichant rien du matin au soir, est amoureux fou de sa cousine Caroline. Il a 13 ans et Caroline 12. Il déclare sa flamme à sa cousine. Caroline, tout en étant du Sacré-Cœur, est fille du négoce, c'est-à-dire pratique, les deux ne sont pas incompatibles. Elle secoue les graviers du bout de son ombrelle. « Mon Dieu, monsieur, nous ne disons pas non. Mais nous voudrions une preuve de votre amour. Un collier de corail des Antilles. » Pratique, Caroline. 8 jours après, le lit de Jules est vide. À 8 heures du matin, son frère affolé voit la gouttière arrachée. Une échelle contre le mur. Connaissant la violence du caractère paternel, il ne dit rien. Lorsqu'à midi, Maître Verne fait l'appel de la marmaille, Jules n'est pas là. À 1 heure, Sophie Verne s'évanouit. À 1 heure et quart, les paysans fouillent les roseaux de la Loire. À 1 heure et demie, le curé de Chantenay sonne ses 2 cloches parce qu'il n'en possède pas 3. À 1h45, Maître Verne, ayant scellé son cheval Bébrin, débarque à Nantes chez le procureur du roi. Enquête. Un marinier avoue qu'à 7h du matin, il a porté un petit garçon portant l'uniforme du séminaire à bord de la Coralie, frégate appartenant au marquis Lecourt Grand Maison, qui a appareillé pour les Antilles. Barrage sur la Loire à Paimboeuf, 25 gendarmes ventre à terre. À 5h du soir, le voilier s'arrête. Le procureur monte à bord suivi de Maître Verne, qui récupère son rejeton et te lui administre une de ses raclées dont Jules se souviendra sa vie durant, d'autant plus, mesdames et messieurs, que c'est la 2e depuis l'appareillage. Il en a reçu une première en quittant Nantes du maître d'équipage pour lui apprendre à naviguer. Il en reçoit une seconde à Paimboeuf de l'auteur de séjour pour lui apprendre à ne pas naviguer. Mais lorsqu'il revient à Chantenay, ce n'est pas sa figure tuméfiée par les claques reçues qui le morfond. C'est le sourire de dédain de sa cousine. Il ne l'oubliera jamais. Et dans son petit cœur d'enfant sauvage, solitaire, révolté, 2 sentiments vont naître qui ne feront que s'accroître et grandir jusqu'à l'âge mûr. Le mépris qui deviendra de la haine pour la bourgeoisie nantaise, qu'il étendra à la bourgeoisie du monde entier. Ces bourgeois avares et stupides. Et puis le mépris pour l'éternel féminin. Elles n'en valent pas la peine, dit-il le lendemain à son frère Paul. Pour oublier Caroline, il se jette à corps perdu dans le travail, se découvre des dons insoupçonnés, prend goût à l'étude de telle manière qu'il stupéfie ses professeurs, sortira dans les premiers du petit séminaire Saint-Donatien, entrera dans les premiers au Collège Royal, sortira 3e sur 70 du Collège Royal. Jules part à Paris. Première lettre à son père, monsieur. Hier, nous avons suivi un grand concours de peuple jusqu'à une place immense dite Concorde, où j'ai vu, monsieur, de tous mes yeux vus, monsieur de Lamartine haranguer la foule sous une cathédrale de velours. Son père lui écrit, monsieur, vous êtes à Paris pour faire du droit et pas de la politique. Il s'est arrangé pour que les parois du porte-monnaie de son fils soient très rapprochées. 7 sous pour vivre, 7 sols. Jules est nourri par sa tante. Il trouve moyen d'acheter chez les bouquinistes des quais pendant 3 mois tout Edgar Poe, qui est son dieu. et dont il subira l'influence. Tout Shakespeare, des longues vues marines, des jumelles, des planisphères, des cartes de géographie de tous les âges. Il entasse tout ça dans sa mansarde, dans sa chambre, d'où il est expulsé 3 mois après par sa grand-tante, pour le motif suivant. Nous enfermons Jules à 7 heures, et à 8 heures, monsieur, votre fils sort par la fenêtre. Où va-t-il aller? Il émigre chez Ignard, le Boer, le prince président et Louis-Napoléon Bonaparte. Il a battu aux élections Lamartine. Il y a des salons bonapartistes à Paris, il y a des salons Lamartine. Si le salon du duc de Morny n'a pas ouvert ses portes, le salon de Madame de Barrère, rue Ferme des Mathurins, a ouvert les siennes. On y conspire pour établir l'Empire et faire du prince l'empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Madame de Barrère est une muse d'une 60aine d'années qui en avoue 35. Les cheveux teints en blond, elle reçoit les mercredis avec un péplum grec et des bracelets d'or aux chevilles. Chez Madame de Barrère se trouvent les bonapartistes les plus intransigeants. Le comte de Corral, le chevalier d'Arpentigny. Quelques hommes de lettres à la mode, anti-républicains. Madame de Barrère eut dans sa jeunesse quelques complaisances, dit-on, pour le vieux marquis de Châteaubourg, l'oncle de Jules Verne qui peignait sur pastel à Nantes. Et ce vieil oncle, cousin de monsieur de Chateaubriand, ce vieil oncle qui ne craignait qu'une chose, c'était que son neveu lui demandait de l'argent, prend les devants. Et écrit à Madame de Barrère, « Ma bonne, nous avons dans Paris un neveu qui se meurt. Invitez-le à vos vendredis, il mangera. » Quelques jours plus tard, un laquais poussif grimpe les 7 étages du cerveau de la maison. Et puis remettre à Monsieur Verne un Bristol armorié sur un plat d'argent. Jules éclate de rire. Je n'irai pas, mais regardez-moi. Chemise trouée, pas de cravate, pas de veston, chapeau vendu. Tu iras, dit Ignard. Je te loue mes escarpins vernis. Prends mon veston, dit bon ami. Il y a de larges poches et n'oublie pas le buffet. Alors, puisqu'il s'agit de ravitaillement déjà, Jules accepte à cause de son bon cœur. S'arrête sous les marronniers des Tuileries pour écrire un madrigal en l'honneur de la maîtresse de maison. Oublie le chapeau élégant d'Ignard. Parvient au 4e étage de la rue Ferme des Mathurins et à la demande des laquais, monsieur, votre vestiaire, défait l'un de ses escarpins qui lui fait mal. Prenez ça, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Et il entre à cloche-pied. Un grand monsieur à faux col empesé et cravate mauve, dit quel est ce jeune faquin. Lui désigne un pouf. On oublie Jules. Le pouf, animé d'un mouvement giratoire, se rapproche insensiblement du buffet. Quart d'heure littéraire. Le chevalier d'Arpentigny, le comte de Corral disent des vers en l'honneur du prince Napoléon. Une jeune fille, pas très à la page, à qui l'on dit « Mademoiselle, dites quelque chose », dit « Je veux bien » et débite le lac de la martyre. Jules, qui adore Lamartine et qui trouve que la donzelle dit mal, se lève de son pouf et lui fait le signe bien connu. Saute à sa place et débite le lac avec toute la fougue de ses 25 ans. Silence, murmure réprobateur. Et tout à coup, Jules comprend. Messieurs, où suis-je? Vous êtes des bourgeois. Encore plus sots que les bourgeois nantais. Et ce n'est pas peu dit. Ma chaudière boue, c'était son cerveau, et la soupape de sûreté fonctionne. J'ai besoin d'air, messieurs, de l'air, de l'air. Il sort, ayant fait cet esclandre, fatigué, s'assied sur les marches pour descendre l'escalier, va trop vite, glisse 6 marches, et atterrit entre le 1er et le 2e étage dans l'estomac d'un gros monsieur bouffi qui monte. Un gros monsieur dont le demi-haut de forme est de couleur, une canne à pomme d'or, petit paltoquet. Vous avez dîné, vous, monsieur? Oui, jeune homme, dit le vieux monsieur, rutilant de satisfaction culinaire. Oui, jeune homme, j'ai même mangé une omelette à la mode de Nantes. Monsieur, vous mentez. Monsieur, les omelettes à la mode de Nantes, elles sont mauvaises à Paris. On ne sait les faire qu'à Nantes, il faut du safran et bien d'autres choses. Monsieur, je suis de Nantes, moi. Jeune homme, c'est Dieu qui vous a mis dans cet escalier. Jeune homme, il y a 6 ans que je cherche quelqu'un qui sache faire les omelettes à la mode de Nantes. Jeune homme, vous me comblez. Venez à mes mercredis, vous m'apprendrez à faire des omelettes. Jeune homme, c'est moi qui vous suis redevable. Jeune homme, monsieur, vous n'en auriez pas une sur vous, car je sais aussi les manger. Vous êtes un petit insolent, mais vous me plaisez. À mercredi, jeune homme. Et nanti d'un Bristol qui ne lit même pas. Jules franchit la distance qui sépare la rue des Mathurins de Saint-Germain-des-Prés, gravit les 7 étages du cerveau de la maison, et devant les regards courroucés de ses amis qui voient les poches flasques, saute sur le piano, brandissant le Bristol. Messieurs, bien question des questions matérielles. Tout homme ici-bas rencontre la fortune au moins une fois sur sa route. Le tout, c'est de l'épouser. Tu te maries ? Elle s'appelle Alexandre Dumas. C'est en entrant les 2 escarpins en avant dans le gilet de Dumas père que Jules Verne fit son entrée dans la littérature française. Sa fréquentation, les salles de rédaction. Là, il est chez lui, fumant la pipe avec tous les bohèmes des salles enfumées des journaux de Paris. L'aventure immobile se meut dans un rayon restreint. Un beau jour, il gagne Saint-Louis dans un concours de nouvelles, avec une nouvelle extravagante. Saint-Louis, il déménage. Chaque fois que Jules a eu de l'argent, il a déménagé. Il a fait la connaissance dans une salle de rédaction d'un vieil homme qui était alors la coqueluche du Paris du Second Empire, j'ai nommé Nadar. Arrière-grand-père du photographe que nous avons connu. Nadar, le vieux Nadar, si original, si amusant, qui avait un hôtel Place Vendôme. Nadar faisait à ce moment-là construire à Meudon un ballon rond, le géant, avec lequel il faisait annoncer par tous les quotidiens de Paris qu'il s'envolerait 3 mois plus tard, pour la Bavière, depuis la place de la Concorde, avec Madame Nadar et la cuisinière Nadar. On ne parlait que du géant dans les journaux scientifiques de Paris, tous les mercredis place Vendôme, une armée d'ingénieurs, de savants, résolvaient des problèmes et des équations du second degré sur des tableaux noirs. Des savants patentés discutaient du plus léger clair. De jolies femmes croquaient des petits fours. Et à ces rendez-vous à la mode de chez Nadar, Jules était là sur un pliant, hâve, la barbe jamais peignée, pas de cravate. Dessinait, écoutait, dessinait, la chaudière bouillait, la soupape de sûreté fonctionnait. Il disparaissait par l'escalier de service. Ça dure 2 mois. Au bout de 2 mois, il porte son rouleau, suprême espoir. Chez les 21 éditeurs de Paris, il y en a 22, mais le 22e s'appelant Jules, il le garde en réserve. Et mesdames et messieurs, n'est-ce pas curieux d'apprendre que les réponses des 21 éditeurs sollicités furent négatives. De tous les éditeurs, non seulement français, mais du monde, Jules Hetzel, dit monsieur, était le seul qui avait compris. Compris quoi ? Compris que c'en était fini du romantisme. Fini des soupirs dans la voix, des pleurs dans les yeux, des mains sur le cœur et des tirades à la Musset. Qu'avec la vapeur et la fée électricité à l'horizon, il fallait aux contemporains satisfaire d'autres appétits que celui-là. Et monsieur, dans le silence de son alcôve et de son exil, avait invoqué souvent les dieux de l'Olympe afin qu'ils dirigeassent vers lui un roman scientifique. 6 mois après, des presses de l'éditeur Jules Hetzel sortaient pour le plus grand enchantement de tous les Français. 5 semaines en ballon. Le premier des grands romans, Les Voyages extraordinaires. Mais 6 mois plus tard, le ballon, le Victoria de Jules Verne, monté par le docteur Ferguson, évadant le ciel d'Afrique, traversait la Manche pour le plus grand enchantement de tous les boys d'Angleterre. 6 mois après, l'océan. Les éditions américaines devaient se succéder à un rythme tel que l'or tombait à profusion dans la poche de l'éditeur. Le ballon, le Victoria de Jules Verne, emmenait son jeune auteur dans un ciel de gloire. Pourquoi ? Parce que ce ballon-là, mesdames et messieurs, Jules l'avait gonflé avec du travail, avec de la patience, avec de l'honnêteté. Alors qu'au contraire, le ballon de Nadar, qui n'était gonflé qu'avec du gaz, s'écrabouillait 6 semaines après dans la forêt de Fontainebleau. ...1863, 5 semaines en ballon. 1864, 3 Anglais au pôle Nord, les aventures du capitaine Abderas. 1865, voyage au centre de la Terre. La critique est variable. Alors que le Figaro publie en feuilleton les romans du vieil ami Jules, et qu'on s'arrache déjà les éditions au bureau du journal tous les soirs, une critique malveillante se fait jour, et ne va-t-on pas jusqu'à prétendre que Jules est un mythe ? Qu'aucun cerveau humain ne peut amasser une telle somme de connaissances, et qu'il s'agit en réalité, tenez-vous bien, ce que je vous dis est parfaitement exact, je l'ai contrôlé encore il y a 15 jours à l'étranger. Légende qu'elle a vécu. Il s'agit d'un consortium israélite de Varsovie. La firme Julius Verne et compagnie. Un physicien, un astronome, un botaniste, un mathématicien, un physiologue, un philosophe. Jules de répondre dans le Figaro, je ne me savais pas tellement nombreux. Et publie son acte de naissance à Nantes et sa filiation depuis Provins. La critique ne désarme pas. Il faudrait un rapport de l'Académie des sciences pour savoir jusqu'à quel point ce jeune auteur se moque du monde. L'Académie, 6 mois après, publie son rapport. Voyage au centre de la Terre, aucune erreur scientifique n'a pu être relevée. Pourquoi ce jeune auteur ne nous emmènerait-il pas dans la Lune, dit un autre folliculaire. Merci mon cher, répond Jules Verne, vous me fournissez le titre de mon prochain roman. 1866, de la Terre à la Lune, 1867, autour de la Lune. C'est un engouement fou, une armée de secrétaires, 6 étudiants pauvres, qu'il choisit pauvres, pour les aider. Répond à toutes les lettres, 600 lettres par jour, du monde entier, quand paraît de la Terre à la Lune. Vous en cite une seulement, car elle est symptomatique de la popularité de Jules Verne. Elle émane d'une jeune oxygénée qui tient ses assises entre la Madeleine et l'Opéra, trottoir de gauche. Elle s'exprime dans le style du temps et en même temps de sa profession. Monsieur, si c'est vrai ce que m'ont dit des copains hier, que vous allez partir pour la Lune dans un obus, vous pourriez pas m'emmener avec vous. Je sais coudre, repasser, je fais mes robes, je fais mes chapeaux, et pour le reste, voilà, elle lui joint sa photo dans le costume initial. Et Jules de répondre, mon Dieu, mademoiselle, ce serait avec le plus grand des plaisirs, car vous êtes délicieuse, mais que dirait en nous voyant des serpents sélénites ? Sans s'en apercevoir, il devient peu à peu avec les enfants du capitaine Grant l'idole du public français. L'idole du public anglais, il l'est déjà depuis plusieurs années. Mais l'idole du public français, grâce à ses héros boulevardiers, patriotards, on est à la veille de 70, Michel Ardan, Paganel, plus tard ce sera Alcide Jolivet dans Michel Strogoff, Passe-partout dans le Tour du Monde en 80 jours. Le français, cocardier spirituel, s'y reconnaît. Lorsqu'éclate la guerre de 70, il a une maison au Crotoy sur la falaise avec un potager, un petit bateau de pêche. On le nomme garde-côte. On lui envoie de la rue Royale un canon, mais on lui dit pas comment ça se charge. Alors il met le canon dans son potager avec 3 pots de géranium dessus. Et la guerre se passe. Pendant la guerre, il est si loin de tout qu'il ignore, il apprend le désastre de Sedan. Il pleure en apprenant le départ de l'impératrice Eugénie. Sa lectrice, passionnée, et se promenant au large sur son petit bateau pour oublier en fumant sa pipe, couché sur le ventre, il voit un jour, dans l'eau glauque, une coque étrange, d'un navire étrange, la chaudière boue. Une inscription latine s'inscrit en lettres vertes à l'arrière du bateau. « Mobilis in mobile ». Mobile, dans l'élément mobile, la soupape de sûreté fonctionne. le sous-marin vient de naître. Nautilus, capitaine Nemo, 20 000 lieues sous les mers. Il écrit ce livre merveilleux en 3 mois dans son potager couché sur le ventre. Ne s'interrompant de ses travaux qu'une fois pour courir à la poste, répondre à une lettre de son père qui lui dit « Je suis vieux, très malade et voilà 3 mois que je suis sans nouvelles. Télégraphiez, monsieur !» Ce télégramme est resté dans les archives familiales. Il est historique dans la famille. « Vais bien, chaudière en train pété. » Arrive l'époque des maladies et de la vieillesse, hélas. Tout a une fin, même la période glorieuse et pacifique qu'il vient de vivre. Il va lui falloir, pour gagner le dernier voyage, payer lui aussi son tribut à la souffrance humaine. D'abord la critique, qu'il ne peut pas comprendre car il est bon. On l'accuse d'être avare. Il reçoit tous les jeudis 6 étudiants du quartier latin qui s'en vont tous avec un louis d'or dans leur gousset tous les jeudis. Parmi eux, il y en a un plus assidu que les autres parce qu'il est de Nantes. Et Jules le soigne particulièrement. Mais il l'a photographié dans un de ses livres. Ce jeune homme-là, beaucoup trop intelligent. Beaucoup trop paresseux, plutôt, pour travailler lui-même, est assez intelligent pour savoir faire travailler les autres. Il ira très loin. Ce jeune homme-là, messieurs, je peux vous livrer son nom. Il s'appelait Aristide Briand. 1905, mars, les camelots sur les boulevards. Le grand écrivain Jules Verne à l'agonie, le grand écrivain va mourir. Dans la foule, Marie Lechou trébuche, gagne la gare du Nord, arrive à Amiens à 10h du soir. Se heurte dans l'escalier à la soutane du premier vicaire de Notre-Dame, qui lui dit « Madame, vous êtes sa sœur ?»« Oui, monsieur l'abbé. Alors ne pleurez pas, madame, c'est un saint. » Le lendemain, 4h de l'après-midi, la famille est là, ignare sa femme, ses enfants, les parents et les amis des mauvais jours, s'aidant de la corde du plafond, alors qu'à côté de son lit, sur une petite table éclairée d'une veilleuse, il y a son dernier livre qu'il n'achèvera pas, L'invasion de la mer à la page 195. Il les regarde, ouvre ses beaux yeux couleur de mer, et leur dit « Mes enfants, ce sont mes derniers mots, je m'en vais. J'ai fait plus de 3 fois le tour du monde. Je sais une chose seulement. C'est qu'il faut, pour être heureux, vous aimer les uns les autres. » Il se tourne contre le mur. Par un reste grande charité pour qu'on ne vit pas les affres de l'agonie sur son visage. Et là, permettez-moi d'anticiper. Je crois que le songe définitif, c'est la mère qui le lui procure. La mère ne peut pas ne pas payer sa dette. L'invasion de la mer. Un grand raz-de-marée se produit, la grande bête bleue, sauvage, saute par-dessus les falaises du Crotoy, envahit le plateau de Picardie. Les grands bœufs rentrent des labours. Il a gelé, il y a des larmes d'argent à tous les buissons. La nature est en deuil. La grande bête bleue déchaînée bat les remparts de la vieille capitale Picarde, envahit les remparts, balaie les places et les rues. Une lame plus furieuse que les autres enfonce la porte. Gravit l'unique étage, saute sur le lit et l'emporte amoureusement jusqu'au cimetière de Corail, où il retrouvera le capitaine Nemo, le prince et le génie des profondeurs.
Première diffusion sur la chaîne nationale le 25 avril 1955.